Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Ben, dis-tu nos conneries.
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode confinement avec un invité et c'est Alex qui se joint à moi pour nous présenter un chouette sujet. Salut.
Salut.
Et c'est comment ça va déjà?
Bah ça va bien, comme tout le monde, je reste chez moi.
Ah, bravo, une bonne sage décision. Ça va pas trop compliqué les communications avec tes étudiants, étudiantes?
Les étudiants encore ça va parce qu'ils sont plus grands, donc les tenir 2 heures en ligne c'est jouable. Les plus petits, les collégiens, c'est compliqué. Mais bon, les parents ils aident, nous on fait de notre mieux et puis là c'est les vacances de toute façon pour eux.
Ah bon, c'est déjà ça. Et puis ouais bah écoute, on va serrer les dents, croiser les doigts, puis espérer que l'avenir soit fait de jours meilleurs.
Mais oui. Et après, on pourra refaire des émissions en live avec à boire et à manger.
Exactement, trop hâte. Et d'ailleurs, ouais, comme tu le soulignes, c'est la première fois qu'on teste un épisode à distance avec un invité. Et je suis plutôt content parce que ça a l'air de pas mal se passer. Donc si vous êtes curieux du fonctionnement, on pourra vous donner les infos. C'est plutôt facile et pratique à utiliser, donc c'est très très chouette. Alors du coup là, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler ?
Alors là récemment, il y a eu la sortie de Disney+, avec la possibilité pour les Français de voir The Mandalorian. Et donc moi aussi je vais partir dans les étoiles et je vais vous parler de la naissance et de la mort des étoiles.
Fort bien, bah écoute, allons-y, c'est parti.
J'entends la naissance d'une étoile.
Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, la Voie lactée et tout.
Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina?
5, 4, 3.
Il paraît que le soleil est tellement chaud qu'une saucisse, elle crame en même pas 2 secondes.
Alors, la naissance comme la mort sont des sujets qui appellent à la curiosité chez l'homme. Elles ont entraîné des rituels et mythologies dans de nombreuses civilisations, comme vous avez déjà pu en entendre dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose de s'intéresser à la naissance et la mort de quelque chose de non vivant, la naissance et la mort des étoiles. Alors tout d'abord, la naissance d'une étoile. Dans une galaxie comme la Voie lactée, on peut trouver des nébuleuses, c'est-à-dire un immense nuage de gaz et de poussière, certaines brillantes. Ah, on remercie mon fabuleux voisin qui a décidé de faire de la perceuse pile-poil pendant l'enregistrement. Super. Certaines de ces nébuleuses sont brillantes parce qu'elles reflètent ou émettent de l'énergie, d'autres sont sombres. Et le gaz, bah, c'est 99% de la matière dans l'espace entre les étoiles. Si la nébuleuse atteint une densité suffisante, ce gaz va pouvoir se présenter sous forme moléculaire de dihydrogène, dans ce qu'on appelle des nuages moléculaires. Alors pour se donner une idée, on estime que la majorité du dihydrogène moléculaire se trouve dans des nuages dont la taille varie entre 50 et 300 années-lumière, sachant qu'une année-lumière, c'est combien, Ilias? Tu t'en rappelles ou pas?
C'est la
beaucoup.
Distance entre la Terre et la Lune fois 9,5, je sais plus.
Waouh, c'est énorme. Alors, une année-lumière, pour la définition de base, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Ça représente 9 000 milliards de kilomètres.
Ah ouais, c'est une petite trappe, quoi.
Ces nuages, ça représente entre 100 000 fois, donc les nuages qui sont suffisamment denses pour pouvoir avoir du dihydrogène sous forme moléculaire, ça va représenter une masse entre 100 000 fois et 1 million de fois la masse du Soleil.
Ok, alors est-ce que je peux poser une question?
Bien sûr.
Quand tu précises du dihydrogène sous la forme moléculaire, c'est que ça serait quoi l'autre forme?
Alors l'autre forme, ça voudrait dire de l'hydrogène, mais qui n'est pas sous forme moléculaire. Donc soit au lieu d'avoir deux atomes d'hydrogène liés, ils vont être séparés. On va avoir des atomes d'hydrogène isolés, voire quasiment que le noyau d'hydrogène. Quand on dit qu'on est dans le vide, on n'est pas vraiment dans le vide, mais on est quasiment dans le vide. J'ai plus les chiffres exacts, je les avais eus à un moment. Je crois que c'est de l'ordre de un proton, soit un noyau d'hydrogène pour 10 mètres cubes, je crois. De volume, soit enfin c'est quasiment le vide, il y a quasiment rien, mais il y a pas vraiment rien.
Il y a rien.
C'est pour ça que un astéroïde, finalement, tant qu'il est dans l'espace, bah il continue son trajet tranquillou parce qu'il y a rien qui le gêne. Le moment où il y a quelque chose qui le gêne et qui commence, c'est quand il commence à rentrer sur une planète où il y a une atmosphère et où là du coup bah t'as plein de molécules de différents gaz qui vont aller taper contre l'astéroïde et ça va générer de la chaleur, et c'est pour ça que ça prend feu. C'est plus un astéroïde, c'est une météorite.
Ok, alors donc du coup, si je comprends bien, c'est-à-dire que dans l'espace, à plus de 99%, c'est de l'hydrogène, soit sous forme hydrogène pur, soit sous forme d'hydrogène.
Voilà, mais de manière très discontinue, c'est-à-dire que tu as des grands espaces où tu n'as rien, et puis tu as les étoiles.
Ok.
Dans la Voie lactée, on trouve environ 5000 nuages comme celui-là. Donc 5000 nuages qui font entre 50 et 300 années-lumière de taille et entre 100 000 fois et 1 million de fois la masse du Soleil.
Ok, donc c'est plutôt gros.
Bah c'est pas mal, après c'est une galaxie. C'est pour se rendre compte de à quel point la galaxie c'est énorme. Nous, on est dans le système solaire, donc on a le Soleil avec les 8 planètes, truc qu'on a vu à l'école. Des systèmes solaires comme celui-là, il y en a énormément puisqu'on a plusieurs centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie.
Ah oui, effectivement.
Ouais, donc c'est vraiment énorme. Alors ces immenses nuages, pendant un temps ils résistent à la gravité, sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir une perturbation qui va rompre l'équilibre et provoquer l'effondrement du nuage. En s'effondrant, il va se fragmenter en plusieurs petits nuages, très denses, très chauds. Ce sont des proto-étoiles, c'est ça qui va devenir des étoiles après. Okay. Alors tout corps chaud émet de la lumière. Nous autres auditeurs de Pardon Maman, du haut de nos 37 degrés Celsius environ, on émet dans l'infrarouge, rendu célèbre par les films et les jeux vidéo avec les caméras thermiques.
Sam Fisher.
Plus la température augmente, plus on va briller dans le visible, ce qu'on appelle le spectre visible de la lumière. Donc ça rayonne et nous, on peut le voir avec nos yeux, comme par exemple la lame d'une épée dans une forge ou une lampe. Et puis si on continue d'être de plus en plus chaud, on va commencer à briller dans l'ultraviolet, comme les rayons du soleil, par exemple, qui nous offrent un bronzage fabuleux, mais pas en période de confinement. Alors au début, elles brillent faiblement dans l'infrarouge, puis très fortement dans le visible. Donc là, on commence à les voir. Tant que c'est dans l'infrarouge, nous, on ne détecte pas l'infrarouge à l'œil nu. Elles atteignent le visible lorsqu'elles atteignent plusieurs milliers de degrés.
Ok. On peut les voir à quelle distance à peu près ?
Alors, la distance, je ne pourrais pas te dire. Par contre, pour te dire à quel point ça brille, très fortement, il faut imaginer 100 fois plus fort que le Soleil.
Ah ouais ?
Voilà.
Donc, 100 fois plus fort que le Soleil actuellement ? Et ça dure combien de temps à peu près, cette phase d'émanation de lumière ?
Ah, j'ai absolument pas le temps de durée de la proto-étoile. Par contre, après, je vais avoir des indices sur la durée de vie d'une étoile. Je vais en parler un tout petit peu après. Alors, donc tout ça, c'est au centre de l'astre, la température, elle augmente encore jusqu'à atteindre 10 millions de degrés. À 10 millions de degrés, on va pouvoir faire de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est tu prends deux noyaux d'atomes, en l'occurrence de l'hydrogène, et ils vont fusionner pour former un noyau un tout petit peu plus lourd. Je ne sais pas si tu as des souvenirs du tableau périodique, cet immense tableau dans lequel tu as tous les éléments qui existent.
Ouais, je vois.
Le tout premier, tout en haut à gauche, c'est l'hydrogène. C'est lui l'élément le plus léger. C'est lui qu'on va retrouver, qui a été créé à l'origine de l'univers. Certains autres éléments ont été créés, mais en très petit nombre. Donc l'hydrogène, c'est une grande partie du gaz qu'il y avait dans notre noyau, dans notre nuage. Et là, quand on atteint les 10 millions de degrés, on va pouvoir fusionner cet hydrogène. Deux noyaux d'hydrogène vont former un noyau d'hélium, le deuxième élément, celui qui est tout en haut à droite, le deuxième sur la ligne.
Ok, plus il y a de pression, plus on va pouvoir avoir des atomes lourds.
Alors, plus il y a une température élevée, plus on va pouvoir faire de la fusion nucléaire et plus on va pouvoir faire des atomes lourds. Mais dans un premier temps, tout ce qui est possible, c'est juste de faire de la fusion hydrogène en hélium.
Okay.
Plus, il faudrait avoir beaucoup plus chaud. Et ça, okay. C'est pas possible tout de suite. Ça, c'est le début de la vie de l'étoile. Une vie qui va durer entre quelques millions d'années pour les étoiles les plus massives, jusqu'à plus de 100 milliards d'années pour les moins massives. Ce qui est un phénomène qui a lieu, c'est que plus l'étoile elle est dense, plus en effet il y a de pression et de température. Et donc, plus elle va cramer vite, plus elle va consommer vite. On pourrait voir ça un petit peu comme une voiture de course qui va flinguer énormément de carburant rapidement parce qu'elle va avoir énormément de puissance, mais du coup, elle va flinguer énormément de carburant très vite. Alors que ma petite Twingo, moi, si tu veux, j'ai pas une très très grosse consommation. D'un autre côté, je peux pas développer la même puissance.
Ah, sachant que, alors, donc, si je comprends bien, tu viens de me débloquer plein de trucs dans mon esprit que j'avais jamais. Donc en fait, ce qu'il y a dans l'espace, alors désolé, je reprends de loin, mais ce qu'il y a dans l'espace, donc c'est principalement de l'hydrogène, mais parce que c'est très libre, etc. Et du coup, c'est en corrélation avec le fait qu'il n'y ait pas de friction, parce que c'est un atome super léger et très très espacé, donc c'est tout tranquille. Après, il y a des nuages avec une plus forte concentration d'hydrogène, et quand il y a une perturbation de la densité de ces trucs-là, il y a une petite agglomération d'hydrogène, ce qui crée plus de température, ce qui crée de la fusion, ce qui crée des plus gros atomes, et en fait le carburant dont tu parlais de ces proto-étoiles, c'est le nuage d'hydrogène
c'est, alors, l'hydrogène c'est le carburant, ouais. et alors après on simplifie pas mal, hein. t'as beaucoup de, tu vas pouvoir avoir des fois des étoiles qui vont se bouffer l'une l'autre, enfin bon, t'as des là on le but, oui, c'est quand même de vulgariser, mais
ultra simplifié,
mais en gros ouais. En gros, la plupart des gros éléments lourds, c'est pas à ce moment, pour l'instant, ils sont pas formés. Là, on raisonne sur l'hydrogène, qui est l'élément le plus facile à créer. Dans le sens où on part de quelque chose de petit pour aller à quelque chose de plus en plus gros. J'avais rappelé la dernière fois où j'étais venu qu'un atome, c'était un noyau composé de neutrons et de protons et des électrons qui tournent autour. L'hydrogène est le plus petit des éléments, et le plus léger, parce qu'il a juste un proton dans son noyau, et un électron qui tourne autour. Tu prends par exemple le carbone, il y a 6 protons. Et dans sa forme la plus courante dans la nature, le carbone, il y a 6 protons et 6 neutrons. Donc c'est déjà un noyau qui est 12 fois plus gros que le noyau d'hydrogène.
Ok.
Donc là, on a notre début de vie de l'étoile. Alors, la vie de l'étoile, on va pas s'y attarder énormément. En tant que une grande partie de sa vie, en fait, elle va juste consommer de l'hydrogène pour former de l'hélium. Okay. Donc, au centre de l'étoile, elle consomme l'hydrogène et puis elle crée de l'hélium. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui arrive ?
Il
n'y a plus d'hydrogène. Donc petit à petit, elle va consommer plus ou moins vite, donc en fonction de sa masse, l'hydrogène, et créer du coup une couche d'hélium à l'extérieur. Et puis au centre, elle consomme l'hydrogène. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'hydrogène. Alors plusieurs choses peuvent arriver en fonction de l'étoile. Les plus petites étoiles, elles vont s'effondrer et finir en ce qu'on appelle des naines blanches. Au cours de ce processus, il y a des ondes de choc qui vont disloquer les couches externes de l'étoile. Ça fait des magnifiques images. C'est ce qu'on appelle une nova planétaire. Non pas parce que c'est une planète, mais parce que ça a une forme vague de ça.
Ok.
Pour les étoiles les plus massives, alors là, on parle de plus de 8 fois la masse du Soleil. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'elles ont fini de consommer leur hydrogène, mais la température du noyau va augmenter, ainsi que la taille de l'étoile et sa luminosité. Donc ça ne devient pas une naine blanche, ça devient une géante rouge. Pour le Soleil, par exemple, ça voudrait dire qu'au lieu de faire sa taille actuelle, il ferait une taille où il engloberait déjà Mercure et Vénus.
Ok.
Alors nous, non, mais on aurait tendance à gentiment tourner vers le Soleil, parce que là, ça perturberait un petit peu d'un point de vue gravitationnel. Lorsque le noyau atteint les 600 millions, donc rappel, on était à 10 millions pour pouvoir faire la fusion de l'hydrogène. Lorsqu'il atteint les 600 millions de degrés, l'hélium préalablement fabriqué fusionne pour former du carbone. Donc, on a multiplié la température par 60, et donc il va falloir 3 noyaux d'hélium pour former un noyau de carbone, si on schématise. Je ne suis pas certain que les réactions de fusion nucléaire soient si simples que 3 héliums donnent un carbone. Il peut y avoir des petites étapes avant. Vers 1 milliard de degrés, on atteint la fusion possible de l'oxygène. Ainsi de suite, l'étoile va former différentes couches avec la formation d'éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Parce que le fer, il a une petite particularité physique, impossible de produire de l'énergie en le fusionnant.
D'accord.
Donc c'est une limite qui est atteinte par l'étoile. Au bout d'un moment, il va y avoir un noyau de fer qui va grossir jusqu'à atteindre une taille où il va se contracter très rapidement parce que la gravité est trop forte. L'étoile va alors s'effondrer sur elle-même. Les couches de gaz externes vont elles aussi s'effondrer et arriver sur le noyau, rebondir sur le noyau avec violence dans une immense onde de choc. C'est ce qu'on appelle une supernova. Alors pour essayer de se donner un petit peu une idée, une supernova, pendant une supernova, l'étoile peut à peu près briller comme 200 millions de soleils.
Putain.
Et donc c'est observable par l'homme. On retrouve une dizaine de traces de supernova à travers nos âges. Par exemple, en 1054, il y a les Chinois qui constatent qu'une étoile reste visible, même en plein jour, pendant 3 semaines.
C'est ouf.
On apprend que, plus tard, qu'il y a 6000 années-lumière qui nous séparent de cette supernova.
Et donc, elle est devenue supernova parce qu'elle a atteint le stade du fer.
Alors, c'était la fin. Elle a atteint le stade du fer. Elle s'est contractée, tout a éclaté, il y a eu une énorme explosion, et cette énorme explosion a fait de la lumière, à tel point que pendant 3 semaines, il y a une étoile qui restait. T'imagines que tu as un point lumineux dans le ciel, tu vois en pleine journée. Des fois, on arrive à voir la Lune, parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Hein. La Lune, elle ne produit pas de lumière. Fait que refléter la lumière du soleil. Des fois, on arrive à la voir en plein jour, parce qu'on est sous le bon angle. Il fait beau et tu vois la Lune, mais tu la vois un petit peu comme effacée parce que la lumière du soleil, elle est trop forte, elle nous éblouit. Là, la lumière, elle est tellement forte qu'elle ne suffit pas à éblouir cette lumière qui vient des étoiles qu'on ne voit pas d'habitude en journée, alors que les étoiles, elles sont toujours là. Mais c'est comme si tu te mettais une lampe devant les yeux. Tu vois pas bien ce qu'il y a autour parce que tu es ébloui. C'est ce qui se passe en pleine journée, c'est pour ça qu'on voit pas les étoiles. Là, la lumière, elle est tellement forte qu'on arrive quand même à voir la supernova.
C'est terrible.
Alors, ce qui reste de la supernova en général, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Donc, on a tout dégagé. Là, c'est d'autres réactions chimiques nucléaires qui se passent. Notamment, on crée des neutrons. Alors, c'est une étoile à neutrons, un objet beaucoup plus dense qu'une naine blanche. Donc là, on va essayer de se rendre compte un petit peu de ce que c'est que la matière dans les étoiles. Imagine un cube de côté 1 cm. Donc, tu as 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Okay. Ça va ? S'il est constitué de la matière d'une naine blanche, donc d'une petite étoile qui a fini sa vie, sa masse est de l'ordre de la tonne.
Oh putain de Dieu!
Donc tu as 1 cm cube, ça fait une tonne. C'est déjà pas mal.
Ok.
S'il s'agit de la matière d'une étoile à neutrons, le même cube de 1 cm de côté, sa masse est de l'ordre de 100 millions de tonnes. Donc on parle de quelque chose ultra dense, une gravité énorme, plus qu'une pression monstrueuse. C'est lors de la création des étoiles à neutrons et des supernovas que les éléments les plus lourds comme le plomb ou l'or ils vont pouvoir être créés. Parce que tu auras justement une pression suffisamment importante et une température suffisante pour pouvoir créer des éléments beaucoup plus lourds et forcer des réactions qui vont pouvoir créer, chose que tu ne pouvais pas faire avant.
Okay.
Enfin, si l'étoile est vraiment très très massive, alors même la stabilisation en étoile à neutrons n'est pas possible. La gravité est trop forte et l'objet continue à gagner en densité à un tel point que même la lumière ne peut s'en échapper de ce champ gravitationnel de cet objet. Tout y tombe, il est sans lumière, c'est le fameux trou noir. Alors c'est en mourant que les étoiles vont disséminer dans l'espace, donc quand elles vont exploser, elles vont disséminer plein d'autres éléments comme le carbone ou l'oxygène. Et c'est comme ça que ça va créer petit à petit une opportunité pour la vie d'apparaître.
C'est ouf, voilà. Mais c'est trop cool, merci. J'ai l'impression d'avoir compris tout ce que j'aurais pu avoir comme cours au collège, lycée là-dessus, dans l'espace. Je comprends beaucoup mieux ce qui se passe dans l'espace maintenant, c'est ouf.
Ça permet de comprendre, mais après... Je regarde de temps en temps des vidéos là-dessus. Il y a des super vulgarisateurs qui sont bien plus calés que moi sur le sujet, et c'est génial parce que tu voyages complètement. Il y a des, même si tu saisis pas tout, t'as l'impression de tout mieux comprendre.
Est-ce que tu m'as conseillé par exemple
J'ai plus le nom. J'étais allé directement sur des sur des sites spécialisés sur justement la vie des étoiles, la matière dans les étoiles et tout, pour préparer le sujet. Je sais que il y avait Bruce Benaraman d'Y Penser qui a fait donc un sujet sur le Big Bang il n'y a pas longtemps. Ça met beaucoup de temps à arriver, mais c'est parce qu'il veut présenter tout l'état d'esprit pour lequel on a pu se dire il y a eu quelque chose qui s'est appelé le Big Bang.
Okay.
Donc ça met, je sais plus, 3 ou 4 épisodes avant qu'il te parle vraiment de ce que c'est que le Big Bang. Mais c'est une vision qui est importante parce que c'est une vision qui permet de comprendre comment on a pu passer de l'étape où on pensait que l'univers était tel qu'il était, qu'il avait toujours été et que ça n'a pas changé, le steady state, il y a eu une immense explosion qui a créé l'univers. Et avant, il y avait quelque chose où on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, c'est pas mal. Et je sais que lui, il a déjà fait référence à un vulgarisateur, mais je n'ai plus le nom.
Il y a un mec qui s'appelle David Loapre, je crois, de Science Étonnante, qui fait des trucs vachement bien aussi.
C'est peut-être Science Étonnante, mais je ne sais plus du tout. Mais je sais qu'il y a des super vidéos de vulgarisation sur l'espace. J'avais vu un extrait d'un TEDx où tu avais un chercheur qui venait expliquer que la matière dans l'univers, c'est à peu près la matière connue. C'est à peu près 25%. De toute la matière de l'univers. Ça, c'est ce qu'on connaît. Après, t'as 25% où c'est ce qu'on appelle de la matière noire, de la matière sombre, dark matter. On sait pas ce que c'est. On a une vague idée de comment ça agit. On sait que c'est là, mais on sait pas ce que c'est. Et les 50% restants, c'est de l'énergie sombre. Ah, d'ailleurs, je me trompe peut-être. C'était peut-être 5%, c'est la matière. 20%, c'est le... C'est la matière sombre et 75% l'énergie sombre. Enfin, je me rappelle qu'il y avait à peu près... Ouais, ça doit être plus de cet ordre-là parce qu'il y avait environ 5% de la matière, on sait ce que c'est, et les 95% restants, on ne sait pas. Et du coup, ça permet de relativiser un petit peu le fait qu'on ne sait pas tous des trucs, quoi.
Ouais, et puis même
c'est
si...
Que même les mecs qui sont hyper calés, à peu près, ils savent te parler de 5% de la matière dans l'univers.
Ouais, puis on a appris plein de trucs avec, comme tu disais, les tableaux périodiques, les machins et tout, mais ça veut pas dire qu'on a tout découvert pour l'instant, et encore plein de choses à voir, à faire.
Non, mais pareil, le tableau périodique, en soi, il sert à rien pour un profane. C'est un outil qui sert lorsque tu veux comprendre un petit peu ce qui va se passer dans la chimie, dans les réactions chimiques. Pourquoi est-ce que le cuivre et l'or sont des excellents conducteurs électriques, mais pas du tout, par exemple, le bois. Tu vois, pourquoi certains éléments vont avoir une plus grande réactivité ? Par exemple, pourquoi est-ce que les éléments de la première colonne réagissent très fortement avec l'eau ? Ça va s'expliquer par leur structure électronique, et c'est leur structure électronique, elle est bien définie dans le tableau. Parce que le tableau est bien foutu.
Je pense que ce sera l'occasion d'un futur sujet.
Bah pourquoi pas, ça pourrait se faire.
Bah en tout cas, ouais, merci beaucoup, très très cool. Et je vois mieux maintenant c'est avec des images simples, mais gros nuages avec de l'hydrogène dedans, des réactions, des trucs, et boum boum, fusion, fusion, fusion. Donc très cool, merci beaucoup.
Bah, c'était un plaisir.
Et puis bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres sujets ensemble. Vous nous direz, vous qui écoutez, si ça vous a plu. Et puis voilà, on espère aussi quand ce sera possible, mais faire de futurs apéros, histoire de refaire un petit épisode à l'ancienne, comme tu disais.
Ouais. Bah, dès que tout ira mieux.
Exactement. Et puis bah, dans tous les cas, bon courage, écoute, avec tes étudiants et étudiantes, avec tout ce travail à faire asynchrone qui n'est pas évident. Et puis bah, à très très vite.
Bah, à très très vite. Ciao, Elias.
Salut, ciao.